Bonjour, un peu de dignité pour Amnesty International. Donc, alors aujourd'hui, je suis. J'ai pensé que c'était très important de venir pour vous annoncer ce qui va se passer sur Marseille. J'en suis très heureuse. Donc, en fait, il y avait un groupe de Marseille dont je faisais partie, évidemment, et qui a été fermé début 2019. Et ce groupe était actif de 1978 à début 2019. Et aujourd'hui, c'est un nouveau cercle d'action va pouvoir se réouvrir. Et Amnesty International France, donc sur Marseille, Amnesty International France souhaite relancer la dynamique sur Marseille. Donc, du coup, mes chers auditeurs, je vous appelle à nous rejoindre à une réunion qui aura lieu donc bientôt d'information le 24 octobre 2019, qui se tiendra au Centre social Julien. Du cours Julien à la salle polyvalente de la Maison pour tous. Donc je vais en profiter pour rappeler que Amnesty International France, ce sont 276 groupes locaux, 16 cercles d'action et 150 antennes jeunes qui agissent au quotidien sur toute la France. Il se trouve que sur le département des Bouches-du-Rhône, vous êtes plus de 18 000 membres et sympathisants s'appuyant sur un réseau de bénévoles de tous. Donc, s'appuyant sur un réseau de bénévoles de tous âges et d'horizons divers, actifs au sein de 4 groupes locaux à Aix-en-Provence, Aubagne, Arles et Martigues, et 4 antennes jeunes. Donc, Aix-en-Provence et une nouvelle qui va arriver sur Marseille. Donc le groupe de Marseille, je le rappelle, donc était actif de 1978 à début 2019. Aujourd'hui, Amnesty a besoin de vous pour réinvestir pleinement le terrain et démultiplier des actions locales en faveur des droits humains. Les possibilités d'agir en ligne et sur le terrain sont multiples et s'articulent autour d'actions de sensibilisation, d'actions de plaidoyer, d'actions de mobilisation, d'action de communication locale. Agir avec Amnesty, c'est aussi participer à la vie associative et bénéficier de temps d'échange, de formation en ligne sur le site d'Amnesty ou des formations sur le terrain. Donc, de temps en temps, j'ai pu y assister moi aussi. Vous avez des formations proches de chez nous. Même. Voilà. Donc, avec des outils, une documentation qui permettent de développer des connaissances et des compétences. Donc comment concrètement redonner une impulsion à Amnesty à Marseille? Eh bien, il va y avoir un événement fédérateur et festif le 7 décembre, dans le cadre des 10 jours pour signer, où nous comptons sur l'implication du plus grand nombre pour nous aider à faire vivre cet événement riche en ateliers, conférences et animations pour petit écran. Donc c'est un événement au niveau national, très très important, les 10 jours pour signer, où on met en lumière des défenseurs des droits humains, des situations d'à peu près tous les pays, et on s'active fortement pour agir. Alors, la défense des droits humains, ça vous parle? Vous êtes motivé? Est-ce que vous avez un peu de temps à donner? Vous faites déjà partie de l'équipe. Individuellement et collectivement, vous ferez la différence. Nous vous proposons donc une occasion d'échanger, de se projeter dans l'action autour de deux sujets. Quelle perspective d'engagement sur Marseille et la co-organisation de cet événement, donc des 10 jours pour signer à Marseille le 7 décembre. Et enfin, on discutera de toutes les personnes qui sont là, de leur souhait de s'engager. Donc pour cela, si vous êtes intéressé, vous allez donc sur le site d'Amnesty France, vous trouverez donc cet événement. Et du coup, il y aura un lien où vous pourrez vous inscrire pour dire que vous souhaitez participer à cette soirée. Donc cette soirée ouverte à tout le monde qui, donc je le rappelle, se déroulera dans la salle polyvalente de la Maison pour tous au Centre social Julien de 19h à 20h30. Donc voilà, je suis très heureuse que se recrée un groupe d'action sur Amnesty à Marseille. et qui, par la même occasion, me permettra peut-être, je l'espère, de pouvoir retravailler comme je le faisais avant avec des militants d'Amnesty au niveau de la radio, de pas être seule à animer cette émission que j'ai poursuivie là depuis pratiquement un an seule, en attendant la recréation d'action et de d'un groupe sur Amnesty Marseille. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, comme je reviens d'une formation féministe sur La Rochelle, qui était organisée par l'Assemblée des femmes, qui était passionnante, qui me sera très utile au niveau des droits humains, bien sûr, et aussi du féminisme, puisque je vous le dis, peut-être vous le savez, que j'anime aussi, je suis responsable d'une émission féministe qui s'appelle La Révolution sera féministe, deux fois par mois, le lundi à 18h sur Radio Galère. Donc, du coup, cette émission d'aujourd'hui va être peut-être un petit peu raccourcie, puisque j'ai moins eu le temps de regarder tous les dossiers, toutes les actualités. Mais bon, j'ai quand même toujours du matériel de côté. C'est pas ça qui manque. Donc, du coup, il y a une actualité dont j'avais pas eu le temps de parler, et je pense que ça vaut le coup, c'est très important. En fait. Donc, ça se passe en Mauritanie, donc un pays dont on parle très rarement. Et il y a un blogueur, en fait, dans ce pays, il faut savoir que malheureusement, il y a encore en cours l'esclavage. Et les personnes qui luttent contre, évidemment, beaucoup de personnes qui luttent contre l'esclavage se font souvent arrêter, enfermer, menacer, etc. Donc c'était le 29 juillet dernier, nous avons reçu une très très bonne nouvelle dont je tiens à vous faire part, puisque quand des succès arrivent, nous en sommes très heureux, puisque nous voyons que notre action est efficace, même si elle peut être très très longue. Et donc il s'agit du blogueur mauritanien Mohamed Kaïtir, qui raconte ses premiers jours en prison. Il était donc prisonnier d'opinion mauritanien. Il a été libéré grâce à l'action d'Amnesty International, donc libéré le 29 juillet dernier. Et il a tenu à remercier Amnesty International dans son plaidoyer pour sa libération. Il a aussi écrit un blog pour raconter ses conditions de détention. Donc il s'appelle Mohamed Cheikh Ould Mkaïtir. Il a été libéré donc le 29 juillet dernier, je vous disais, après 5 ans en détention. Son procès s'est ouvert le 23 décembre 2015. Il était inculpé d'apostasie et d'outrage au prophète Mahomet. Il a été condamné à mort le lendemain, arrêté le 2 janvier 2014 pour en réalité avoir simplement publié un blog sur l'esclavage et la discrimination. Il a été condamné à mort le 24 décembre 2015, au lendemain de l'ouverture de son procès pour apostasie et outrage au prophète Mahomet. Le 9 novembre 2017, une cour d'appel a ramené sa peine à 2 ans d'emprisonnement, qu'il avait déjà purgé, et lui a infligé une amende. Les autorités l'avaient cependant maintenu en détention avant de le libérer en juillet de cette année. Il se trouve maintenant donc en Europe, d'où il a écrit ce blog pour raconter ses conditions de détention et remercier Amnesty International qui avait mené campagne pour sa libération et qui mène toujours campagne évidemment pour toutes les autres personnes menacées pour la même cause en Mauritanie. Donc il a écrit « Il n'est pas inhabituel, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe, que des personnes soient arrêtées et emprisonnées pour des délits d'opinion. » C'est ce qui m'est arrivé le 2 janvier 2014 dans mon propre pays, la Mauritanie. J'avais pourtant simplement publié un blog sur l'esclavage et la discrimination subie par la caste des forgerons dont je fais partie. À mon arrestation, j'ai été placée à l'isolement avec pour seul compagnon de cellule des puces et des blattes. Les premiers jours de ma détention, je m'endormais au son des voix de l'intérieur de la prison qui souhaitaient ma mort. Le matin, j'étais réveillée par des cris provenant de l'extérieur de la prison, appelant à m'assassiner. Kiné, Fatim, Gaëtan et leurs collègues d'Amnesty International ont persisté dans leur plaidoyer et continué de frapper à toutes les portes pour ouvrir celle de l'espoir. L'espoir d'une autre vie, s'érodait jour après jour. Personne autour de moi ne souhaitait que je vive. J'essayais cependant de me convaincre que j'habitais dans un état de droit et que les avocats avaient pour mission principale de défendre le droit de tous les détenus à un procès équitable, prélude à leur libération. J'étais toutefois choquée de découvrir que de nombreux acteurs de la justice avaient pris le parti de ma mort. Je m'étais dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Le 25 juillet 2015, alors que j'étais recroquevillée dans ma cellule à l'isolement, j'ai entendu la porte du couloir s'ouvrir et le cliquetis de clés aussi grosses et lourdes que les bottes de celui qui les tournait. La porte s'est ouverte, je me suis interrogée. Les gardiens viendraient-ils à cette heure? Ce n'était pas dans leurs habitudes. Que pouvait-il bien se passer? Le gardien s'est approché, la voix chargée de haine. Le visage renfrogné et revêche, il me dit « Tu as de la visite ». La visite d'Amnesty International m'a ouvert grand les portes de l'espoir. Elle m'a fait sentir que je n'étais pas seule, que d'autres que moi avaient voué leur existence à défendre les opprimés, quelle que soit leur couleur, leur ethnie, leur sexe ou leur religion. Ces personnes croyaient au droit de chaque être humain à la liberté, ainsi qu'à la liberté d'opinion et d'expression. Elles font partie des rares qui insufflent l'espoir chez autrui, qui s'efforcent de diffuser la culture de la vie et qui ne ménagent aucun effort pour aller aux endroits les plus reculés et mener un plaidoyer pour l'instauration de l'état de droit et le respect des droits humains. Ce 25 juillet 2015, l'espoir était venu me rendre visite et briser mon isolement. Cet espoir, nommé Amnesty International, était représenté ce jour-là par Kiné Fatim Diop et Gaëtan Motou. Je les voyais pour la première fois, mais j'ai eu le sentiment que nous nous connaissions depuis toujours. C'est comme si j'étais assis et plaisantais avec mes amis ou des membres de ma famille. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien la situation en Mauritanie, je vais vous faire écouter. Donc, il faut me laisser le temps de le retrouver. Une vidéo que l'on trouve sur le site d'Amnesty. Bon, mais évidemment, là, ça va se transformer en audio, mais ce n'est pas le problème. Et donc, qui vous résume un peu la situation dans ce pays où l'esclavage existe encore.
Ne nous y trompons pas. L'esclavage est encore d'actualité dans certaines parties du monde. C'est le cas en Mauritanie, où si officiellement il a été aboli en 1981, on compte encore plusieurs milliers d'esclaves. Au lieu de lutter contre cette pratique inhumaine, le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairage.
Ne peut plus continuer à supporter l'insupportable.
Assa Thym commence tout juste à goûter à la liberté. Jusqu'à il y a peu, elle était encore propriété de ses maîtres et subissait toutes sortes de sévices.
J'avais 5 ans quand on m'a arraché à ma mère et mon père, je ne l'ai jamais connu. J'ai été violée par mes maîtres. J'ai eu 2 enfants de cette relation.
Historiquement, l'esclavage a toujours existé en Mauritanie. Les premières populations concernées sont les Afro-Mauritaniens et les Aratines. Cette dernière communauté, descendant d'esclaves, est encore largement discriminée aujourd'hui malgré l'abolition de l'esclavage. Pas d'accès à la santé, à la justice ou encore à l'éducation.
Il y a encore des milliers d'esclaves, de personnes qui vivent en esclavage en Mauritanie.
François Patuel est chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Les estimations varient de quelques milliers à 43 000 esclaves. Ça représente presque 1% de la population. L'esclavage en Mauritanie, c'est une structure traditionnelle. Ça veut dire que on peut naître esclave, on grandit et on vous donne des tâches domestiques au fur et à mesure que vous grandissez. C'est d'abord vous qui vous occupez du ménage, ensuite des repas et ensuite des enfants.
Je travaillais sans interruption du matin à mon réveil jusqu'au soir à mon coucher. Des tâches domestiques toujours les mêmes. Et je devais aussi m'occuper du bétail à la campagne.
Vous n'êtes pas rémunéré, vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, on peut décider de vous marier, vous appartenez à la famille dans laquelle vous êtes esclave.
Il faut savoir qu'en 2016, sur 47 dossiers déposés pour des affaires d'esclavage devant la justice, Seulement 2 personnes ont été condamnées.
L'esclavage a été aboli en Mauritanie en 81, il a été criminalisé en 2007, la loi a été renforcée en 2015, et pourtant il y a très peu de personnes qui sont traduites devant les tribunaux pour esclavagisme.
En réaction, de nombreux défenseurs des droits humains se mobilisent contre l'esclavage dans ce pays.
La société civile mauritanienne est très bien structurée. Il y a déjà des groupes qui sont assez anciens, qui luttent contre l'esclavage depuis une vingtaine d'années. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles associations, par contre, qui essayent de faire le même travail et qui, elles, n'ont pas l'autorisation. Les nouvelles autorités n'autorisent pas les nouvelles associations qui traitent de la question de l'esclavage et de la discrimination raciale en Mauritanie.
Pire, depuis 2014, nous avons recensé 168 arrestations arbitraires de défenseurs des droits humains, dont plus de 60 militants anti-esclavagistes.
Les autorités ont une panoplie d'outils qu'ils utilisent pour réprimer et pour censurer le travail des défenseurs des droits humains qui travaillent sur les thématiques d'esclavage et de discrimination raciale. Une de ces méthodes, c'est déjà la répression des manifestations pacifiques. Quand on porte des revendications, y compris de manière pacifique en Mauritanie, on est exposé à la violence policière et à l'arbitraire des autorités locales. Le simple fait de s'associer en tant que défenseur des droits humains, c'est déjà très réglementé, c'est déjà très difficile.
Dénigrement, agression, torture, menace de mort, harcèlement en ligne, les persécutions sont donc nombreuses contre les défenseurs des droits humains.
Mohamed Anatel Afan, là, ils m'ont déshabillé, j'avais seulement des culottes. Toute la nuit, ils ont pensé à me bastonner, à me poser des questions. J'ai répondu, j'ai donné la réponse, ils disent c'est faux, c'est pas la bonne réponse. Ils ont leur turban, ils roulent comme une corde, ils attachent à mon cou, et quelqu'un est de côté, l'autre est de ce côté. Je suis retombé dans l'inconscience.
Sur place, Amnesty International continue de travailler et de demander justice.
Le gouvernement mauritanien doit absolument cesser toutes les attaques contre les organisations de la société civile, contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les syndicalistes. Et surtout, faire en sorte effectivement que les responsables de ces crimes soient jugés.
En 2018 et 2019, la Mauritanie repartira aux urnes pour les élections législatives puis présidentielles. Un moment décisif pour peut-être changer la donne et obtenir justice. Aujourd'hui encore, de nombreux défenseurs des droits humains sont emprisonnés dans ce pays.
Voilà, donc je reprends la régie. Donc en fait, comme elle vous disait, donc il devait y avoir de nouvelles élections donc, en Mauritanie. Elles ont effectivement eu lieu et donc le nouveau président se nomme Ghazouani. Mais on n'est pas du tout sûr que la situation s'améliore. Donc en fait, nous avons donc un nouveau chef d'État de la Mauritanie. Donc Amnesty lui a demandé, déjà avant l'élection, donc on demandait aux candidats de signer une charte, un engagement comme quoi ils aboliraient l'esclavage. Mais il se trouve que parmi les 6 candidats, 3 des 6 candidats avaient signé ce manifeste, donc qui se déclinait en 12 engagements en faveur de la promotion et de la protection des droits humains en Mauritanie. Ce nouveau président avait été officiellement invité à le faire, donc il s'appelle Mohamed Ould Ghazouani. C'est le candidat du parti au pouvoir et ce qui nous inquiète, c'est qu'il n'a pas signé ce texte. Pendant sa campagne, il n'a pas non plus fait montre d'une quelconque volonté d'améliorer la situation désastreuse des droits humains dans le pays. Pendant la période qui s'est écoulée donc, entre la réélection du président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz, c'était en juin 2014, et les dernières élections qui ont donc eu lieu en mai 2019, Amnesty International a recueilli des informations faisant état de la fermeture de 44 organisations de la société civile qui œuvraient en faveur du respect des droits humains. Pendant cette période, au moins 174 défenseuses et défenseurs des droits humains ont été arrêtés arbitrairement. 17 d'entre eux ont été torturés ou autrement maltraités. Depuis longtemps, il faut savoir que les autorités mauritaniennes qualifient de traîtres ces personnes et celles et ceux qui dénoncent les discriminations sont systématiquement victimes de harcèlement, d'intimidation et d'agression. À l'annonce de la victoire de Mohamed Ould Ghazouani le 22 juin 2014, les 4 autres candidats avaient contesté les résultats. Des manifestations avaient eu lieu. Ce jour-là, les autorités On procédait alors à des arrestations massives. Ils avaient interpellé plus de 200 personnes, dont des sympathisants de l'opposition et des journalistes. Et on déployait des forces de sécurité à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Voilà, donc, affaire à suivre. Voilà, ce que je voulais du coup aussi vous encourager à faire, c'est d'agir. Donc, vous avez sur le site Amnesty International France tous les moyens d'agir qui sont divers et nombreux. On n'est pas obligé de faire partie d'un groupe pour pouvoir agir. Donc, il suffit d'aller sur le site et vous verrez qu'il y a de nombreuses façons, notamment, bien évidemment, les pétitions d'Amnesty International qui sont donc historiques et qui sont en réalité très efficaces. Du coup, je vais vous faire écouter aussi un petit audio qui vous explique pourquoi les pétitions, ça marche. Contrairement à ce que beaucoup de personnes nous disent, non, ça ne sert à rien. Eh bien, en fait, nous savons que ça marche, puisque bien, grâce à nous, bon, y a quand même le travail qui a porté des fruits dans le monde entier. Bon, le monde est terrible, mais il serait encore plus sans l'action des citoyens qui luttent pour les droits humains. Donc Amnesty International en fait partie. Donc des prisonniers et prisonnières d'opinion ont pu être libérés dans de nombreux pays. Voilà le résultat de ces actions. Des condamnations à mort ont été commuées en des peines de prison. Des personnes qui pratiquent la torture ont pu être envoyées devant les tribunaux. Des gouvernements ont pu se laisser convaincre de la nécessité de modifier des lois et des pratiques. Donc il y a eu des changements dans de nombreux pays par rapport à des lois qui ne respectent pas les droits humains du tout. Donc il y a encore beaucoup à faire évidemment, mais il faut souligner quand même des succès quand il y en a. Près de la moitié des actions urgentes menées en faveur de personnes donc les actions urgentes concernent des personnes qui courent vraiment un très très grand danger. Il faut savoir que près de la moitié des actions urgentes que nous menons sont couronnées de succès. Quant aux lettres contre l'oubli, aux pétitions et aux dossiers à long terme, ils produisent eux aussi dans de nombreux cas des effets positifs. Campagne et Action permet d'améliorer la situation des droits humains sur les plans légal et social et épaule des organisations actives sur le terrain. Bien sûr, nous travaillons en collaboration avec les associations de terrain. Exemple, des lois pour une protection accrue des femmes ou instaurant un contrôle du marché des armes voient le jour. Donc, d'ailleurs, je rappelle en ce moment la grande campagne par rapport aux armes d'Amnesty International dont je parle régulièrement, j'ai parlé dans les précédentes émissions. Donc rappelons aussi qu'on doit à la pression d'Amnesty et d'autres organisations de défense des droits humains l'adoption d'une convention internationale contre la torture en 1987, la création d'un tribunal pénal international en 2002 et en 2006, la constitution d'un conseil des droits humains sous l'égide de l'ONU. Donc je vous fais écouter plus d'informations donc sur à quoi servent les pétitions.
Je vous ai parlé d'une manière assez simple de comment faire passer vos idées. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le retrouver juste là. Sinon, aujourd'hui, nous allons passer à l'étape supérieure. Car oui, vous voulez aller plus loin, vous êtes déterminé, fini de discuter, vous allez passer à l'action. Du coup, vous vient une envie que vous n'aviez jamais eue auparavant, vous allez signer une pétition. Une pétition ? Attends, mais ça sert à rien une pétition, tout le monde le sait. Ça, c'est ce que je pensais avant. Pourquoi j'ai changé d'avis ? Je vous l'explique maintenant. Commençons par une question simple. C'est quoi une pétition ? Eh bien, en réalité, en fait, c'est tout simple. Une pétition, c'est un document qui a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un problème ou une situation donnée. Par exemple, le problème, ça pourrait être une loi sur la protection de la vie privée sur Internet. Et ce document sert à faire pression sur les décideurs, que ce soit par exemple un ministre, un député ou une entreprise. En gros, c'est la personne ou l'entité qui a le pouvoir de faire changer les choses. Le but, c'est de récolter un maximum de signatures afin d'être le plus efficace possible. Bon, jusqu'ici, tout va bien, je pense que je vous apprends pas grand-chose et il est possible que vous en ayez déjà signé. Car en effet, sur le papier, il est vrai que ça a l'air particulièrement cool. En fait, une pétition, ça permet de mettre en avant l'opinion du public sur une situation donnée. Ceci étant dit, l'efficacité ou la légitimité d'une pétition peut facilement être mise en cause. car la pétition n'a en fait aucune valeur juridique. Je m'explique, pas de panique, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Vous êtes peut-être déjà dit qu'une pétition ne servait à rien, car en fait le décideur n'est tenu par aucune obligation légale de la prendre en compte. Eh bien, c'est en partie vrai. Vous pouvez avoir une pétition très populaire, avec des revendications claires et légitimes et signées par des centaines de milliers de personnes, le décideur n'est tenu par aucune obligation de la prendre en compte. Alors du coup, posons directement les questions qui fâchent. La pétition est-elle réellement un moyen de pression efficace? Pour répondre à cette question épineuse, je vais tout simplement partir de ce que je connais bien, Amnesty International. Vous le savez peut-être, à Amnesty International, on aime beaucoup faire des pétitions. D'ailleurs, sur notre site, vous pouvez retrouver une page dédiée aux pétitions en cours. Ainsi, en quelques clics, vous pouvez soutenir le combat de votre choix. Si on en propose autant, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, les pétitions, ça peut vraiment devenir un levier important pour faire valoir les droits humains dans le monde. D'ailleurs, pour vous le démontrer, je vais tout simplement vous expliquer comment ça fonctionne. Tout d'abord, nos chercheurs enquêtent sur une situation de violation des droits humains. Donc bon, pour être honnête, c'est franchement pas des situations super réjouissantes. Ça va être par exemple le bombardement de civils lors de conflits, l'activité suspecte d'une multinationale, ou encore par exemple l'emprisonnement de journalistes. À l'issue de cette recherche, un rapport est écrit, et ce rapport en particulier, c'est un peu la base de tout chez Amnesty. Cela prend la forme d'un document plus ou moins gros avec l'ensemble des résultats de la recherche. Celui-là, par exemple, c'est le rapport qui traite des ventes d'armes de la France à l'Égypte. À l'issue de ce rapport, nous avons du coup une vision assez claire de la situation, mais le plus important, c'est que nous savons qui a le pouvoir d'agir. Ces informations sont très précieuses, car elles vont nous permettre de définir le cadre de notre pétition, autrement dit, ce qu'elle revendique et à qui elle est destinée. Une fois la pétition produite, nous la diffusons par tous les moyens possibles, que ce soit par le biais des militants, par des vidéos ou par exemple par des communiqués de presse. Nous essayons de récolter un maximum de signatures dans un temps donné et nous les transmettons aux autorités concernées. Et alors du coup, est-ce que ça marche? Eh bien, pour vous le prouver concrètement, voici deux exemples. Grâce à votre mobilisation, trois prisonniers nord-américains qui avaient été accusés à tort d'avoir tué un gardien de prison ont passé plus de 40 ans à l'isolement. Ils sont aujourd'hui libres. Grâce à votre mobilisation, trois femmes saoudiennes ont été libérées après avoir été détenues et torturées pour avoir défendu les droits des femmes dans leur pays. Évidemment, il ne s'agit que de deux cas. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. C'est bête à dire, mais plus il y a de signatures, plus il y a de chances que cela fonctionne. Donc à vos stylos et à vos souris.
Voilà. Donc, effectivement, aussi sur le site d'Amnesty France, vous trouverez des liens, un onglet sur tous les succès d'Amnesty, les bonnes nouvelles, on les appelle. Voilà. Vous pouvez aussi vous abonner, je crois, à une newsletter où vous recevez justement, enfin, c'est mois par mois, c'est recensé, ou tous les trois mois, les bonnes nouvelles d'Amnesty. Donc, pour faire la transition avec la prochaine thématique où je vous parlerai des droits humains et de l'écologie. Je voulais vous faire écouter, il faut que je la retrouve, la chanson « Niquons la planète » de HK. Sauf que j'arrive plus à la retrouver, donc deux secondes. Voilà, j'y suis presque. Alors... Bon, je ne l'ai pas trouvé. Bon, je vais mettre une autre chanson. Désolée. Bon, je vais, c'est pas grave. Je vais mettre donc Alexei, une petite pause musicale avec Alexei d'Ibrahim Malouf. Thank you. Donc un peu de dignité pour Amnesty International sur Radio Galère. Alors je vais reprendre donc dans une autre thématique sur droits humains et écologie. Donc c'est aussi une campagne très importante d'Amnesty International. Vous trouverez tout un dossier thématique sur le site avec de nombreuses actions, recommandations, actualités, plans d'action, etc. Donc, je vais vous parler de la reconnaissance d'une demande par la société civile et par des personnes qui luttent pour l'environnement, dont des juristes, et qui plaident pour une reconnaissance du crime contre l'environnement. Et aussi, notamment, la responsabilité des sociétés transcontinentales par rapport aux crimes contre l'environnement. Alors premièrement, partons de la France. La lavande ne paye plus. Maurice Féchet, 73 ans, est lavandier dans la Drôme. Il se souvient pourtant du temps où un plant pouvait durer 20 ans. Désormais, il ne tient que 4 ans à cause des bouleversements climatiques. Une année, c'est l'extrême sécheresse, puis des inondations, puis le gel. C'est ce que nous explique ce producteur de lavande qui a repris en 1971 la ferme familiale située à Grignan, dans le sud du département, héritée de son père et de son grand-père. Il nous dit « Depuis 3 ou 4 ans, nous avons des printemps chauds et secs avec plus de 30 degrés au mois de mai. S'il ne pleut pas l'été, c'est catastrophique. Et pour protéger les nappes phréatiques, on ne peut plus pomper pour arroser. » On regarde nos plantations mourir. Notre production est passée de 50 tonnes à 20 tonnes en une dizaine d'années. Grignan comptait 35 agriculteurs, ils sont 8 aujourd'hui. Et des recherches sont lancées pour faire évoluer les plants. Certains se mettent à la lavande dans le Maine-et-Loire ou à Milly-la-Forêt. Soupire le lavandier. Maurice Féchet, donc 73 ans. Ayant confié la gestion de la ferme à son fils Renaud, Maurice touche 980 euros de retraite et profite du temps retrouvé pour s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques. La famille Féchet figure parmi les 10 familles qui ont porté plainte contre le Parlement et le Conseil européen le 24 mai 2018. Toutes ces familles se considèrent en danger du fait du changement climatique et reprochent aux législateurs d'autoriser un niveau trop élevé d'émissions de gaz à effet de serre. Les familles ayant porté plainte pour maintenir le réchauffement climatique global sous les plus de degrés, l'Europe doit réduire ses émissions d'au moins 55% à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. Dans le cas contraire, leurs droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à la sûreté, le droit de travailler ou de jouir de sa propriété sont mis à mal, bien qu'affirmés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, connue sous le nom de People's Climate Case. C'est donc une action judiciaire et c'est une première. Elle est portée devant le tribunal de l'Union européenne. Celui-ci a jugé l'affaire irrecevable le 8 mai dernier, estimant que les requérants n'ont pas qualité à agir. Mais les familles et leurs avocats ne veulent pas en rester là. Une seconde bataille s'engage en appel. On ne porte pas plainte pour être indemnisé, explique Marcel Féchier. Le truc, c'est de dire qu'à Grignan, on a pu vivre de la lavande pendant des générations. Pourquoi plus maintenant ? Il faut que l'on parle du réchauffement climatique pour que l'on ait une conscience collective et que ce soit le comportement de chacun qui puisse changer. Ces 10 familles qui ne se connaissent pas sont soutenues par le collectif d'ONG Climate Action Network Europe. De multiples preuves montrent qu'elles sont des victimes du réchauffement. Autre signataire de la plainte, la famille Carvalho au Portugal, qui a elle aussi perdu 3 plantations de chênes durant les incendies de forêt de l'été 2017, dues aux vagues de sécheresse récurrentes au Portugal. Au large de l'Allemagne, dans une île de la mer du Nord, l'hôtel-restaurant de la famille Rechtenwald est, lui, gravement menacé par l'érosion, les tempêtes et la montée des eaux. En Roumanie, une autre famille, la famille Vlad, qui élève du bétail à 600 mètres d'altitude dans les Carpates, et qui doit dorénavant le conduire à plus de 1400 mètres pour bénéficier de fraîcheur, d'herbe et d'eau en quantité suffisante. La liste est encore longue. Autant de témoignages documentés de menaces causées par le changement climatique global dont seraient co-responsables, du fait de leur inaction, les institutions européennes, selon les plaignants. À l'échelle mondiale, 1307 plaintes et recours climatiques ont été lancés pendant la dernière décennie. Selon le Sabine Center for Climate Change Law de l'Université Columbia de New York. En enjoignant l'Europe à agir pour l'ensemble des citoyens du monde, le People's Climate Case remet au goût du jour la notion de justice climatique, qui était née lors des premières conférences climat des Nations Unies dans les années 1990. Une notion selon laquelle c'est aux pays riches, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, de prendre les mesures les plus fortes pour réduire leurs émissions et pour réparer les dommages que leur population a causés. Donc l'inaction fait des morts. L'État français est également dans le viseur, en particulier depuis que l'affaire du siècle a éclaté dans le paysage de l'action militante écologiste le 17 décembre 2018 dernier. J'en profite pour vous rappeler que j'avais passé une petite conférence de Valérie Cabanne, qui fait partie d'une des juristes qui participe ou qui a co-créé cette affaire du siècle, dont vous pouvez retrouver dans les podcasts. 10 jours ont suffi à 4 associations, Notre Affaire à tous, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Oxfam, pour recueillir 1 million de soutiens en ligne. Se fondant sur le droit international, Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pan-européen, la Convention européenne des droits de l'homme, européen, donc avec le paquet climat-énergie, la directive sur l'utilisation des énergies renouvelables, et dans le cadre national avec la Constitution, la loi relative à la transition énergétique, ces ONG estiment que l'État a l'obligation légale d'agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Ainsi que le stipule l'accord de Paris, issu de la COP21, afin de protéger les Français face aux risques. Les charges sont sérieuses. L'inaction de l'État fait des morts. C'est ce que dénonce leur demande préalable, indemnitaire, dans un courrier qui a été envoyé au Premier ministre et à 10 ministres concernés par le changement climatique. Y est dressée la liste des préjudices subis qui entraîneront une demande de réparation, au premier rang desquels les impacts du changement climatique sur la santé et la sécurité humaine. L'explosion des pathologies allergiques, 30% de la population adulte actuellement atteinte. Les vagues de chaleur causant jusqu'à 15 000 morts, voire la canicule de 2003. La pollution atmosphérique responsable de 48 000 décès prématurés par an. Rester sans réponse satisfaisante, la lettre ouverte s'est mue le 14 mars en plainte devant le tribunal administratif de Paris. 2 mois plus tard, la pétition de l'affaire du siècle affichait 2,2 millions de signatures, soit la pétition en ligne la plus signée de l'histoire en France. Pour ces ONG, les États ne sont pas seulement coupables d'inaction, leur soutien à différentes entreprises polluantes les rendent aussi complices. Dans son livre « Un nouveau droit pour la Terre », voilà, c'est Valérie Cabanne dont je vous parlais en fait, puisque donc j'ai passé, elle était à l'Assemblée générale d'Amnesty France il y a quelques mois. Donc j'ai enregistré le son de sa conférence très intéressante. Donc Valérie Cabanne, qui est la fondatrice de Notre Affaire à tous et du mouvement End Ecocide on Earth, rapporte un chiffre du Fonds monétaire international en 2015, 5 300 milliards de dollars de subventions, soit l'équivalent de 2 PIB français, ont été alloués aux énergies fossiles dans le monde par l'intermédiaire d'États ou de banques. Attaquer juridiquement ces politiques-là, c'est donc attaquer des politiques écocides. La voie de l'écocide. Qu'est-ce que c'est que l'écocide ? Sur les traces du biologiste états-unien Arthur W. Galston, qui est mort en 2008, c'est donc l'inventeur de ce concept d'écocide en 1970. Valérie Cabanne définit l'écocide comme un endommagement grave de tout ou partie du système des communs planétaires et ou d'un système écologique de la Terre. Cette formulation traduit ce que la théorie scientifique dite des limites planétaires affirme depuis 2009, la destruction d'un milieu naturel en un endroit de la planète a des conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'écosystème Terre et donc pour l'ensemble des humains qui y vivent. Par exemple, un rejet industriel massif de CO2 en Europe est potentiellement meurtrier pour quantité d'êtres vivants habitant à des milliers de kilomètres de là. En absence d'une législation claire sur le plan international comme national, les entreprises qui violent le droit de l'environnement comme les droits humains sont rarement sanctionnées et leurs victimes peinent à se faire entendre. Il y a eu un pionnier dans ce domaine, c'est le leader Ogoni Ken Saru Wiwa, qui avait réussi pourtant à donner un écho international à son combat contre les effets de l'exploitation pétrolière de Shell sur le territoire de sa communauté au Nigeria. Dès le début des années 90, il qualifiait de génocide les graves conséquences des pollutions sur son peuple dans le delta du Niger. Mais depuis, seules quelques procédures civiles ont pu dédommager des victimes résidant désormais au Royaume-Uni et aux États-Unis, et il a fallu attendre 24 ans pour qu'un tribunal néerlandais se déclare enfin compétent, le 1er mai dernier, pour juger de l'éventuelle complicité de Shell dans l'exécution de 9 leaders Ogoni, dont Ken Saru Wiwa, par la junte nigériane en 1995. Ses responsabilités dans la pollution sans limite de l'Ogoniland jusqu'à le rendre inhabitable n'ont cependant pas été, aujourd'hui encore, mises en cause. Voilà, donc je vais être obligée de terminer cette actualité. En fait, je n'ai pas pu terminer tout ce que j'avais à dire, mais je vois que l'heure tourne beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais vous pouvez retrouver tout ce complément d'information donc, dans le dossier thématique sur climat, écologie, droits humains. Et cette actualité s'intitule « État et multinationales dans l'œil du cyclone ». Voilà. Donc je ne peux pas clore cette émission sans vous parler de ce qui se passe par rapport au peuple kurde et donc mon soutien, donc le soutien aussi d'Amnesty, donc il y a aussi une actualité à ce sujet par rapport au peuple kurde. Et puisque je suis aussi féministe, il y a les associations féministes qui se mobilisent à Marseille notamment, donc la Marche mondiale des femmes, Femmes solidaires aussi se mobilisent pour organiser des actions par rapport à ça. Donc j'ai choisi de vous lire un communiqué de presse de la Marche mondiale des femmes France parce que je trouve qu'il résume bien la situation. Voilà, puis je laisserai donc l'antenne à l'émission suivante qui attend déjà dans le studio. Donc la Marche mondiale des femmes France, en réunion nationale les 12 et 13 octobre dernier, appelle l'ensemble des associations féministes, toutes les forces démocratiques de notre pays, tous les citoyens et citoyennes à soutenir et à participer massivement aux manifestations de solidarité avec les Kurdes et toute la population du Rojava. Donc, moi, j'étais pas là samedi sur Marseille, mais je sais donc qu'il y a eu une manifestation de soutien. Et j'en suis très heureuse. Les Kurdes, et particulièrement les femmes kurdes, ont été les acteurs et actrices principaux de la déroute de Daesh en Syrie. Ces jeunes femmes courageuses, organisées, volontaires, ont sacrifié leur jeunesse, leur vie familiale, leur propre vie, pour la défense non seulement de leur territoire, mais également de la démocratie, face au monde barbare que veulent nous imposer les intégristes et les dictateurs. Tous les pays européens et au-delà ont encensé ces combattants qui nous libéraient de la barbarie. Que font-ils aujourd'hui ? Les Kurdes sont les artisans de la lutte contre l'État islamique. Ils sont les vainqueurs de la bataille de Kobané. Ils ont sauvé la vie à des dizaines de milliers de Syriens, Syriennes, de Kurdes yézidis martyrés en Irak. Je rappelle les esclaves sexuels, femmes yézidis, hein, de Daesh, les esclaves. Les femmes et les hommes kurdes du Rojava constituent un rempart à la barbarie et à l'obscurantisme. Le projet politique du Rojava démocratique, féministe, laïque, peut construire la paix au Moyen-Orient. Il peut faire reculer la menace terroriste. Il nous concerne tous et toutes, bien au-delà du Moyen-Orient, car il sera un modèle de vie commune entre différentes religions, différentes cultures, différentes langues. Mais le projet du Rojava inquiète les autoritaires de toutes sortes, tant politiques que religieux. N'oublions pas que cette région est riche en pétrole, en gaz. Les guerres menées en apparence contre des oppositions idéologiques le sont en réalité pour des objectifs d'accaparement des richesses. Dans la province du Rojava, au Kurdistan de Syrie, c'est un véritable nettoyage ethnique qui vient de commencer. S'appuyant sur les forces syriennes complices de Bachar el-Assad, sur les djihadistes recyclés de Daesh, Erdogan anéantit 7 ans de lutte, des milliers de vies humaines et l'espoir de paix et de démocratie au Moyen-Orient. Donald Trump, après avoir instrumentalisé les combattants kurdes, les abandonne aujourd'hui, laissant libre cours au bombardement de l'armée turque. Les pays européens et l'Union l'Union européenne ont en même temps soutenu les combattants kurdes et négocié avec le dictateur turc qui se présentait comme le rempart contre une immigration que les pays européens rejettent. L'armée d'Erdogan, accompagnée de mercenaires djihadistes, a lancé l'assaut contre les forces démocratiques syriennes et kurdes. Dans un régime où le sexisme, la suprématie masculine sont encensés, les femmes subissent des violences extrêmes. En 2018, à Istanbul, 440 femmes ont été tuées après des violences sexistes et machistes. Les droits humains sont bafoués. Les femmes sont assujetties à la volonté ou diktat des membres masculins de leur famille ou de leur conjoint. Nous n'attendons aucune humanité de ce régime, aucune cohérence politique. C'est la volonté internationale qui seule peut faire reculer Erdogan. La Marche mondiale des femmes, solidaire des femmes et du peuple kurde, réclame une protection internationale pour la population du Rojava. L'OTAN doit en assurer le contrôle. Il y a plusieurs associations féministes marseillaises qui sont solidaires du peuple kurde et qui se réunissent en ce moment pour organiser des actions. Donc vous pouvez pour cela contacter par exemple le MRAP aussi, c'est l'endroit où se réunit la Marche mondiale des femmes. Il y a aussi donc Femmes solidaires et puis certainement d'autres associations féministes qui se réunissent et d'autres associations globales. Voilà, donc je vous encourage aussi à aller voir justement à ce sujet, le film de Caroline Fourest, Sœur d'armes, qui tombe bien. Et puis, il y a aussi eu sur Arte, je crois que pas plus, ça devait être il y a quelques jours seulement, un documentaire sur le Rojava, justement, la révolution par les femmes. Puisqu'il faut savoir que justement les femmes combattantes kurdes luttent aussi et avant tout pour l'égalité et les droits des femmes. Voilà. Donc je vais laisser l'antenne à l'émission suivante, article 25. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous remercie. N'oubliez pas donc cette réunion de jeudi 24 octobre prochain pour créer un nouveau groupe Amnesty International à Marseille. Donc je ne trouve plus mon générique. Eh bien, je vais en mettre un autre. C'est pas grave. Ah, merci et à bientôt.